Poor Little Belgium, Pauvre Petite Belgique, une série proposée par Christine Mazuy, avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation, Jeanne de Barcy. Août 1914. Dans les villes martyrs, les civils sont au cœur du conflit. Huitième épisode. Dinan, 23 août 14, 674 morts.
La troisième armée, donc, qui marche sur la Meuse, s'est fait l'idée à l'avance qu'il y avait des francs-tireurs à Dinan, que c'était, pour citer le commandant de l'armée, un nid de francs-tireurs.
John Horne, historien, Trinity College, Dublin.
Rive gauche, c'était l'armée française. Il tenait le pont de Dinan. Et un jeune lieutenant qui tenait le pont de Dinan était Charles de Gaulle.
Daniel Bourdon, dinantaise.
De l'autre côté, sur la rive droite, c'était les Allemands.
Donc les Allemands ne parviennent pas à franchir le fleuve. Et donc ce temps qui est perdu, cette agressivité, la retourne vis-à-vis des civils. Et donc là, il y a une explosion de colère extrême.
Et c'est Dinan qui a écopé. Dinan, pour les Allemands, devait être brûlé. Tous les Dinantais devaient être massacrés.
La bataille du 23 commence vers 6 heures du matin.
Michel Collot, professeur d'histoire, conservateur des archives de Dinan.
Et on a des troupes qui s'infiltrent par les fonds de l'Eff et qui viennent déjà mener une chasse à l'homme dans le quartier autour de l'abbaye de l'Eff.
Mon arrière-grand-père, qui était boulanger, après avoir fait sa dernière fournée, se rend à la messe. Quand il sort de la messe, il est aux alentours de 6h30 à peu près du matin, on commence à lui tirer dessus.
Michel Kellner, Dinantais.
Il rentre chez lui et il dit il va se passer quelque chose aujourd'hui, puisque déjà les premiers coups qui arrivent. Il ferme ses volets et ils attendent.
Les premières scènes de tuerie se situe dans le temps vers 10 heures du matin. À peu près une quarantaine de civils qui sont exécutés.
Michel Collot.
On sent qu'il y aura, à travers la journée, une gradation dans la cruauté. Il fait très chaud ce jour-là. Et on sait que dans la fin de la matinée, dans l'après-midi, beaucoup de soldats allemands se sont enivrés avec des officiers. Ils ont vidé des caves. Donc ils sont ivres morts et perdent le contrôle d'eux-mêmes.
Alors, une de mes tantes que j'ai bien connue, donc on l'appelait tante Clarisse, s'était cachée à un endroit qu'on appelait Alpré, où le ruisseau, donc la Leffe, était voûté. Donc il y avait une espèce de cachette naturelle. Et donc, il y a toute une partie de ma famille qui s'est cachée là.
Bénédicte Burnet, dinantaise.
Jusqu'au moment où ma tante Clarisse avait ses règles, et donc elle n'a pas pu tenir dans l'eau, elle est sortie de l'eau avec son mari. Et eux n'ont pas été inquiétés. C'est ceux qui sont restés sous la voûte plus tardivement qui ont été trahis par, je pense, des canards et sont sortis de cet endroit. Et là, ils ont été fusillés. Parmi eux, il y avait mon arrière-arrière-grand-père et son beau-fils qui ont été fusillés. Voilà.
Au faubourg de l'Eff, il y a une manufacture de tissus.
Michel Collot, conservateur des archives de Dinan.
La plupart de ces ouvriers sont cachés dans le sous-sol de cette usine ou à proximité, et les Allemands vont les déloger dans l'avant-soirée et vont les conduire sur le lieu de tuerie. Le directeur de la manufacture propose même d'épargner la vie de son personnel en proposant une somme d'argent extrêmement importante. Et un officier lui répond que ce n'est pas de l'argent qu'il veut, mais c'est du sang. Et le sang de ces hommes-là. Là, vous avez une centaine d'hommes qui sont exécutés sommairement. Et les femmes sont, à ce moment-là, enfermées dans l'abbaye des Prémontrés avec les enfants. Donc elles entendent, en tout cas, le bruit de cette fusillade collective. Et donc on voit bien là que la cruauté gagne en puissance. Je veux dire. Ils vont organiser une rafle également.
Allez, les Boches ont entré dans les maisons et faire sortir tout le monde.
Marcel Houbion, Dinantais.
Et on divise les hommes, les femmes. Les femmes, on les a mises avec les enfants à la prison.
Et ils vont conduire sur un lieu d'exécution à partir de 17h, 17h30, une centaine d'hommes. Ils vont les aligner contre un mur de la propriété du procureur du roi Maurice Tschoffen, d'où l'appellation, hein, mur Tschoffen, ou mur des fusillés, et ils exécutent là, sur quatre rangées, une centaine d'hommes.
Les femmes qui étaient à la prison ne savaient pas ce qui se passait devant le mur Tschoffen. Et toujours pas de nouvelles des hommes. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont pas morts? C'est cette incertitude.
Il y a un endroit que la presse va intituler le massacre des innocents dans l'entre-deux-guerres, c'est le mur Bourdon. C'est là que le nombre de femmes et d'enfants exécutés sommairement est le plus élevé.
La plupart des fusillades collectives qui sont perpétrées par les Allemands concernent des hommes qui sont séparés des femmes, hommes qui sont en âge de porter les armes.
Axel Tixon, dit Nantais, professeur d'histoire, Université de Namur.
La fusillade du mur Bourdon est particulière parce que, à côté de ces hommes-là, il y aura des femmes, des mères avec des nourrissons dans les bras, qui vont être placées devant un mur et fusillées.
Ma famille résidait donc dans le quartier Les Rivages, près du rocher Bayard, le long de la Meuse.
Daniel Bourdon, fille et petite-fille de fusillés.
Et là, ils sont arrivés en défonçant portes et fenêtres. Les habitants étaient absolument terrorisés.
Ils vont faire la même chose à Neff, ils vont aller chercher avec des barques une cinquantaine d'otages, femmes, enfants, vieillards, et ils vont les conduire sur un lieu d'exécution.
Donc ma grand-tante Zoé Burnet, son époux et leur petit enfant qui a 19 mois vont être raflés par les Allemands et alors transportés par barque sur l'autre rive. Donc là, Neff, c'est la rive gauche, on passe sur la rive droite. Et ils vont être emmenés avec d'autres familles au lieu dit Les Rivages. Et là, vont rejoindre déjà d'autres prisonniers, donc autour de la famille Bourdon, et vont être fusillés la fin de la journée.
Et là, on met des gens au mur et on tue tout.
Et des petits-enfants, dont un bébé de 3 semaines, qui a été odieusement massacré.
C'est là qu'on trouve Mariette Fivet, qui a 3 semaines.
Michel Collot, historien.
Elle est... Je vais dire achevée, il n'y a pas d'autre mot, elle est achevée par un soldat allemand qui, à coup de baïonnette, qui la promène comme un trophée au bout de sa pique. Et ensuite, il va jeter le cadavre de l'enfant et il va, on le sait par des témoins, il va mettre son pied sur le ventre et retirer la lame avec beaucoup de satisfaction. Donc là, c'est le sommet dans la cruauté.
Comment peut-on tirer sur des femmes avec des nourrissons dans les bras?
Axel Tixon, professeur d'histoire.
Hein, donc ça, c'est particulièrement interloquant comme phénomène.
Au-delà de 20 heures, les Allemands brûlent massivement des immeubles. On va parler de fureur teutonne qui s'exprime dans toute la nuit, au point que des témoins racontent qu'ils ont vu autour de Dinan une couronne de feu.
Dans des villes comme Dinan, ça brûle pendant pratiquement une semaine.
Laurence Van Ieperzeel, professeur d'histoire, Université de Louvain.
La ville, au lendemain des tueries collectives, ressemble à une ville fantôme. C'est comme un tremblement de terre qui détruit la ville. Il reste une vingtaine d'immeubles debout. Tout le reste est calciné. C'est l'apocalypse. Je crois que le mot n'est pas trop fort. On veut l'élimination de cette ville.
Daniel Bourdon.
674 personnes ont été fusillées, brûlées, massacrées à Dinan, 23 août.
Pour une population de près de 7500 habitants, c'est énorme. C'est plus de 10%.
Et 950 maisons ont été incendiées.
Pour mon arrière-grand-mère, ça a été une véritable catastrophe.
Bénédicte Burnet.
Comment est-ce qu'on peut se remettre de ça? Donc sa fille aînée fusillée, son petit-fils fusillé, son mari déporté avec 3 fils aînés. Et donc ne restait qu'un fils, mon grand-père, qui avait 5 ans à ce moment-là.
On va toujours parler du massacre en lui-même, qui est important, le massacre en lui-même, mais voir comment les gens vivent après.
Michel Kellner.
D'après certaines cartes postales, on voit que des gens vont quand même aménager des petits baraquements de briques et de broc, enfin, et puis après, tout doucement, la vie va reprendre. Mais ça, on ne sait pas s'imaginer.